des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey en votre compagnie, peut-être via les ondes, via Canal M, via CKVL ou encore en balado. Aujourd'hui à l'émission, ce petit bout de bonne femme, cette petite boule d'énergie là qui continue année après année, folie après folie, livre après livre, à nous émouvoir, à nous dire peut-être ce que nous, qui n'avons jamais connu l'exode, devrions savoir sur ces départs qu'on ne choisit pas mais qu'on subit et sur ces guerres qu'on ne subit pas non plus. La vie, l'histoire, la guerre, c'est tout cela qui nous a permis au Québec d'accueillir l'image même de la pétillance et de l'intelligence qu'il tuit, qui me fait l'honneur d'être mon invité pour la troisième fois. Si j'étais une autre émission, je pense que j'y donnerais une carte. Pour son quatrième et tout dernier livre qui s'appelle M.E.M. C'est un titre aussi court qu'il nous en dit long sur des personnes dont le nom ne sera peut-être jamais cité nulle part, ni dans aucun film, ni dans aucun documentaire, quel qu'il soit. Sur fond de tragédie, c'est peut-être le plus sombre de ses livres, mais c'est aussi le plus éclairant pour nous. Et il est porté en livre audio par la voix d'Ève Landry, qui sera également au bout du fil, parce que j'aime bien que les auteurs rencontrent leurs lecteurs. En seconde partie, Claudia Larochelle reviendra elle aussi sur ce livre M de Kim Thuy, ainsi que sur Chaviré de Lola Lafont. Et puis pour finir, j'ai des extraits de nouveautés littéraires en audio à vous mettre dans les oreilles. Vous savez, quand je prépare l'émission, la première idée de chanson qui me vient pour ouvrir le show, c'est souvent la bonne. M.E.M. Kim Thuy va nous dire ce que ça veut dire en vietnamien. Mais pour nous, M, ça résonne autrement. Et comme le chante Louis Chédid et sa couvée d'artistes, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et vous écrivez ça comme vous voulez.
Le mot M existe en premier lieu pour désigner le petit frère ou la petite sœur dans une famille, ou le plus jeune ou la plus jeune de deux amis, ou la femme dans un couple. J'aime croire que le mot « aime » est l'homonyme du verbe « aimer » en français à l'impératif « aime ». Aime, aimons, aimer.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquelles on dort, on dîne, on parle au téléphone.
Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. Mais de là en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes.
Avant de nous dire au revoir, de marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe,
je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour.
Vous tous autour, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important
La raison, les sentiments, on dit jamais assez aux gens qu'on aime. On leur dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime.
Un début de vérité. La guerre, encore. Dans toute zone de conflit, le bien se faufile et trouve une place jusque dans les fissures du mal. La trahison complète l'héroïsme, l'amour flirte avec l'abandon. Des ennemis avancent les uns vers les autres dans un seul et même but, celui de vaincre. Dans cet exercice qui leur est commun, l'humain se révélera à la fois fort, fou, lâche, loyal, grand, grossier, innocent, ignorant, croyant, cruel, courageux. Voilà pourquoi la guerre, encore.
Bonjour Kim Thuy.
Oh, je suis très gênée d'avoir Ève à côté de moi.
Et bonjour Ève Landry.
Bonjour! Qui s'est née, qui vit bien. Donc, je disais, oh mon Dieu, une chance que, oui, que peut-être que mon extrait passe avant Ève.
Arrête, c'est tellement touchant de t'entendre. Oui. Je suis moi-même impressionnée et abasourdie. Arrête, ouais. Je te retourne le compliment, cher Kim.
Oui, parce qu'évidemment, Ève, hein, on va vous entendre un petit peu plus tard à l'émission, ça c'est très clair, mais je trouvais que ces mots-là, pour ouvrir cette entrevue, c'était les mots qu'il fallait, quoi qu'il arrive. Kim Thuy, il était une fois une histoire d'amour entre Alexandre et Mai qui allait fragmenter, je reprends vos mots, dans le temps, leur entourage. Ça, c'est en page 23. Alors voilà, le fil va faire son chemin. Entre, ça commence dans le milieu du caoutchouc, ça finit dans le vernis à ongles. C'est fou pareil. Avec au milieu cette guerre du Vietnam, que les Vietnamiens appellent la guerre des Américains. Finalement, Kim Thuy, vous nous présentez là, quoi, les mille et une façons de s'aimer, de naître, de vivre, de survivre et de mourir en temps de guerre.
Oui, tout à fait. Et je crois que surtout, que je crois vraiment que l'amour existe beaucoup plus ou beaucoup mieux, ou se manifeste de façon plus évidente dans les situations extrêmes. Mmh. Alors qu'on croit que c'est le contraire. Mais quand on regarde, je ne sais pas, même dans le vocabulaire, dans l'armée, les soldats s'appellent des frères d'armes.
C'est vrai.
Donc on peut vraiment se fier à un soldat ami de notre, j'ai même pas le vocabulaire de notre bataillon, beaucoup plus qu'entre deux collègues dans un bureau. Mmh. Et c'est là où je voulais vraiment faire ressortir l'amour comme tel, et la meilleure façon, c'est de les placer dans les endroits les plus sombres.
Oui, les plus sombres, parce que justement, je me suis demandé, et je suis sûre que Ève Landry s'est également posé la question en le lisant à haute voix, je me suis demandé tout au long du livre, mais quelle magicienne est-elle qui me tue pour écrire aussi délicatement, presque avec de la dentelle, ce qu'il y a pourtant de plus laid et de plus grossier chez l'homme et l'hommerie. Comment vous faites, qui me tue? Je sais pas.
Mais c'est parce que j'ai regardé la lumière. Vous pensez que je décris l'atrocité, mais en fait, non. J'essaie vraiment de décrire la beauté, et non pas l'atrocité. Et encore une fois, c'est le contraste qui peut le mieux souligner cette beauté-là. Et donc, ma plume, mon intention ou ma mission dans la vie n'a jamais été de partager l'horreur,
non.
Mais de nous rappeler, nous, qu'on est capable, qu'on a cette capacité de bonté, de générosité, d'héroïsme. Mmh. Et vraiment, c'est dommage, hein, mais l'humain a besoin de catastrophes, de situations extrêmes pour devenir héroïque. Et je me dis, je me suis posé la question, s'il n'y avait pas de catastrophes naturelles ou pas naturelles, est-ce qu'il y aurait eu la création de la Croix-Rouge ou des Médecins sans frontières?
Oui.
Au commissariat des réfugiés. Donc, il faut peut-être toutes ces situations atroces pour qu'on devienne vraiment grand et réaliser qu'on est capable de cette grandeur-là.
Et qu'il y a dans l'atrocité le meilleur de nous-mêmes parfois, comme ce soldat américain par exemple qui va sauver cette petite d'un ravin. Je vais me tourner vers vous, Ève Landry. C'est un livre coup de poing, un livre dense, un livre qui pourrait paraître compliqué mais qui ne l'est pas. Il suffit simplement qu'on se laisse aller, qu'on se laisse porter par ce fil qui nous amène d'un personnage à un autre. Vous l'avez reçu comment, ce livre-là, Ève Landry?
Sensiblement comme vous venez de le décrire, en fait. Ouais. Et c'est si juste de dire... C'est une des premières remarques que j'ai faites, puisqu'on s'est parlé un peu au téléphone, moi et Kim, avant l'enregistrement, puis c'est une des remarques que je lui faisais de tout l'amour qui ressortait de ces histoires-là. C'est vraiment ça qu'elle est allée chercher, puis elle le décrit elle-même, mais de la beauté à travers toutes ces atrocités-là. Je crois que Kim est une magicienne en ce sens où elle arrive à voir la lumière à travers toutes ces atrocités-là et à nous la faire ressortir. Et exactement comme vous dites, Clotilde, c'est de la fine dentelle. Et chaque histoire, moi, des fois, il fallait que je prenne des pauses. C'est si bien ficelé, le fil est si bien relié entre chacune des petites histoires, des petits paragraphes, que je prenais des pauses simplement pour apprécier ce que je venais de lire. C'est pas long, je retournais savourer ce que je venais de lire. Je n'ai pas trouvé ça lourd du tout.
Jamais.
Que c'était aucune lourdeur. Simplement, oui, beaucoup d'atrocités quand on se l'imagine d'un certain point de vue, mais du point de vue proposé par Kim ici, c'est une beauté et de l'amour et de la bienveillance. J'ai adoré cette lecture et en faire... essayer de rendre... Mon souci était vraiment d'essayer de rendre la beauté. Des fois, je recommençais. J'étais comme, oh, on va le recommencer, celle-là. C'était trop lourd.
Ah oui,
hein? Ouais. C'était comme, je veux ressortir un peu plus de légèreté dans tout ça, ouais.
Oui, Kim.
Je peux juste vous dire, Ève, la professionnelle qu'elle est, elle m'a appelée pour pouvoir prononcer les mots en italien.
Ah ben oui. Ah ben ça, c'était vraiment... une de mes questions, parce que je me demandais comment elle l'avait fait.
Mais vous savez, après seulement peut-être 2-3 mots, je lui ai expliqué un peu l'alphabet vietnamien, comment le D est prononcé et tout ça. Et en vraiment 2-3 mouvements, j'avais l'impression qu'elle parlait vietnamien.
C'est fou!
C'est ça le talent, je crois, de pouvoir saisir le son d'une langue très rapidement, de se l'approprier. Et vraiment, ça venait tout naturellement chez elle. Je ne sais même pas comment elle a fait, d'ailleurs. Et donc, elle disait... Je dis donc, le prochain livre, Eve, tu vas devoir le lire en vietnamien.
Au complet.
Allez, hop. Il y a, donc, je parlais de ces mots incroyable, parce que je voudrais rassurer les gens qui vous ont pas lu, on parle beaucoup d'horreur et d'atrocité, mais soyons clairs, on parle surtout d'amour, on s'entend, c'est parce qu'on est bien obligé de relater certains faits qui sont extrêmement douloureux, mais l'emphase est toujours mise sur l'amour, sur la générosité, sur tout ce que l'humain a de beau au milieu de tout cela. Je pense par exemple à ce personnage de Naomi, on est en page 83, à ces mots-là, là. L'avion qui emporte des orphelins pour redorer le blason de Ford vient d'exploser en vol. Et juste ces quelques mots, un photographe a capté le reflet des flammes dans ses yeux. Elle qui a traversé 3 continents, un océan, 12 fuseaux horaires pour se battre contre le destin. Elle est une mère qui se prenait pour Dieu, celle qui voulait propulser ses orphelins vers l'avenir à la manière d'un parent qui sauve son enfant en le jetant du balcon d'une maison en feu. Ça, c'est du Kim Thuy.
Ouais.
Mais c'est tellement déchirant. Mais c'est tellement déchirant, Kim. Moi, je vous imagine dans votre maison en train de rédiger ça. Bon, on le sait, vous l'avez dit dans d'autres entrevues, vous avez profité du confinement pour écrire ça. Mais il y a des moments où la plume devait vous tomber des doigts, ou l'ordinateur, ou le clavier, ou je ne sais quoi. Je veux dire, des moments déchirants comme cela. Vous avez dû faire un retour en arrière quelque part.
Oui, mais en même temps, vous savez, j'avais l'impression de seulement relater ce que je voyais. Vraiment.
Ouais.
Et l'image d'un parent qui jette un enfant par le balcon, en fait, vient de ces moments au Vietnam où je voyais
bon, des femmes qui voulaient presque nous confier leur enfant. Vous voyez, à moi, en tant que touriste, en tant que Canadienne, que pour elles, j'avais plus de moyens. Et au départ, je me sentais coupable parce que j'avais un jugement envers ces femmes-là, de dire, mais comment est-ce qu'elles font pour vouloir donner leur enfant comme ça? Et une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai compris. Oui. Et que c'est un amour encore plus grand. Parce que c'est pour l'enfant et non pas ses sentiments à elle. Donc, elle s'est sacrifiée, elle, en tant que maman, pour espérer un meilleur destin à leur enfant. Et c'est là où, bon, l'image de, justement, de ses parents, j'ai eu la chance de rencontrer un parent qui a mis 5 enfants séparément sur, sur 5 bateaux différents pour espérer qu'un seul des 5 arriverait quelque part. Il serait sauvé.
Ouais, c'est fou.
Et donc, c'est ça l'amour extrême une situation extrême. Vous voyez,
dans le livre est émaillé, c'est vraiment sensationnel. Je voudrais qu'on écoute Ève Landry maintenant. C'est un extrait. J'aurais pu tellement choisir, mais plein. Ève, souvent, malheureusement, c'est même pas moi qui peut choisir parce que je prends l'extrait qu'on me donne. Mais là, je suis. Il faut que je sois tout à fait honnête, mais je suis très très heureuse qu'on puisse entendre donc un extrait de Ève Landry dans la lecture du livre M de Kim Thuy. Je reçois ces deux femmes-là en ce moment. Vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles.
S'ils étaient illettrés et ne savaient pas rêver au voyage au-delà des frontières du Vietnam, la plupart des coulis avaient compris que le caoutchouc synthétique gagnait du terrain ailleurs dans le monde. Ils ressentaient les mêmes craintes qu'Alexandre, ce qui incitait nombre d'entre eux à quitter la plantation et à dessiner un nouveau parcours dans les villes, dans ces grands centres où la présence des Américains, bientôt des dizaines de milliers d'Américains, créait de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de vivre et de mourir. Certains se réinventeraient en vendeurs de jambon Spam, de lunettes de soleil ou de grenades. Ceux qui étaient en mesure de saisir rapidement la musicalité de la langue anglaise deviendraient interprètes. Quant aux plus audacieux, ils choisiraient de disparaître dans les tunnels creusés sous les pieds des soldats américains. Ils mourraient en nageant double, entre deux lignes de tir ou à 4 mètres sous terre, déchiquetés par les bombes ou rongés par les larves qui s'incrustaient sous leur peau. Le jour où Alexandre a réalisé que les épandages d'agents orange sur les forêts avoisinantes avaient empoisonné le quart des arbres de sa plantation et que son contremaître avait été égorgé dans son sommeil par un commando de la résistance communiste, il a hurlé. Il s'est défoulé sur Mai, qui se trouvait sur son chemin, celui entre la colère et le découragement.
Mai, son amoureuse, et ensemble ils vont faire Tam, et voilà, et le fil de Tam, on s'en va à Naomi, on s'en va. Ève Landry, vous nous l'avez dit, il y a eu des moments où vous étiez obligée de vous arrêter, bon, en vous demandant, en tant que lectrice, est-ce que moi, là, j'ai fait ma job? Mais même, j'imagine, simplement, en tant que femme qui découvrait ce livre-là, vous aussi, ça vous est rentré dedans, sûrement, hein?
Ah oui, complètement, et c'est surtout, après avoir discuté avec Kim, qu'elle m'expliquait, c'est comme ça qu'elle a travaillé, si je ne me trompe pas, Kim, elle a eu tellement de témoignages. Et le livre, c'est 10% environ ce qu'elle me disait de tout ce qu'elle a entendu et de tout ce qu'elle a recueilli. Donc, moi, ça m'a particulièrement rentré dedans de savoir que, OK, ça, c'est, il y a encore plus de choses, il y a encore plus d'histoires. Et de réussir, tu sais, comme tout à l'heure, elle parlait de juste l'image de l'enfant projeté par la fenêtre. Mais ça, c'est relié à toute une histoire des mères, comme elles viennent nous raconter. Je pense que c'est la beauté de ce livre-là, et c'est la beauté du travail de Kim, d'arriver à prendre toutes ces histoires-là, de réfléchir à ça et d'en créer sa propre histoire à elle, ce qui l'inspire, elle, et de faire de s'approprier un peu tout ça en respectant chacune des histoires en soi. Je trouve que c'est une des grandes forces de ce livre-là. Puis c'est et ce qui fait que ça se tient tout autant, c'est que c'est directement relié à ce que Kim ressent, j'ai l'impression, et à ce que ça part directement de son cœur à elle. Fait que oui, ça nous rentre dedans, puis oui, en tant que mère et en tant que, je veux dire, il y a des images troublantes là, d'enfants, et tout ça, exactement, c'est cet avion qui explose, rempli d'orphelins, il y a comme c'est atroce, là, t'sais, pis tu veux jamais vivre ça, puis mon cœur s'est arrêté à plusieurs moments. Mais tu peux décider de le regarder de cette manière-là, puis penser à tous ceux qui sont décédés, puis tu peux aussi penser, tu peux aussi décider de le regarder en imaginant celui qui est rendu, qui a une grande carrière aux États-Unis, ou celui qui, tu sais, ceux qui ont survécu, oui, puis qui ont fait de grandes choses. Et c'est cette manière-là un peu que j'ai essayé d'avoir tout au long de la lecture, tu sais, cette vision-là plutôt.
Alors, il y a des phrases absolument bouleversantes. Ève Landry, je pense que vous serez bien d'accord avec moi, Kim, elle est bien obligée, même si elle a toujours considéré qu'elle n'avait pas de talent. Je referme la je referme la parenthèse. Celle-ci, la mort du pilote était survenue si rapidement qu'elle n'avait pas eu le temps d'effacer son sourire. Ça fait partie des choses, moi, ça, que je souligne et que j'écris à la main, à côté. Ce qui me fait dire une chose aussi, et puis vous m'avez tendu une perche un peu, Ève Landry, c'est que les livres de Kim Thuy sont minces. Hein. On s'entend, ce sont des petits livres qu'on peut rentrer dans une belle grande poche de manteau d'hiver et qu'on peut traîner avec nous. Mais la densité de ce que ces histoires multiples, de ce que ce fil nous raconte, je trouve que c'est un livre qu'il faut lire absolument doucement et lentement. C'est un livre à déguster. Qu'est-ce que vous en pensez, Ève?
Ah, ben, oui,
je veux dire,
en fait.
À livre,
mais
à,
tout dépendant.
Une bouchée à la fois, c'est ça que je veux dire.
Ah, oui, une bouchée à la fois, oui, très certainement, mais ça dépend aussi, exact, ça dépend du même point. Tu sais, ça dépend vraiment de comment tu l'absorbes, puis ouais, des fois, tu as juste envie de dévorer ça pour en finir. Tu sais, oui. Il y a un côté. Je reconnaîtrais des gens facilement à OK, là, je veux tout lire ça pour soit me clairer ça de la tête ou juste comme OK, mais comment ça finit? Puis qu'est-ce qui va arriver? Puis donnez-moi d'autres beautés, donnez-moi d'autres. Tu sais, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, ça a été quelques bouchées, mais aussi, je savais que je devais le rendre aussi. C'est pas oui, la même manière de lire.
C'est ça. Non, exactement. Mais autre, alors, regardez.
Je dirais que c'est parce qu'il a été écrit très lentement, en fait.
Ah oui.
Donc, mm-hmm, peut-être que c'est pour ça que
c'est
vous avez
pour ça.
Parfois, aux certains lecteurs, le prendre vraiment comme en bouchée. Comme du caviar.
Alors,
on peut pas en manger beaucoup. Même si c'est petit.
Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais alors.
Si c'est très bon.
Mais même. Oui. Même je me dis une chose, Kim et Ève, à ce moment-là, proposons à ceux qui ne l'ont pas encore ni lu ni entendu, c'est parce que je souhaite que ce livre audio soit écouté par des milliers de personnes, c'est peut-être, allez, dévorez-le d'un coup pour savoir ce qu'ils deviennent. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on est sur le bout de notre siège, on se dit, mais non, voyons donc, elle n'est pas morte. Mais non. Mm-hmm. Ah non, elle n'est pas morte. Puis pouf, 50 pages après, on apprend que... Oui, elle est morte tragiquement à cause de l'agent orange, à cause de toutes sortes de choses. Alors, je vous propose au monde, lisez-le d'un seul coup, puis après, reprenez-le. Reprenez uh-huh, une. Hein? Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire ce bouquin.
Mais moi, j'ai tellement hâte d'écouter
en entier.
Toute la bande, parce que en lisant, je me comprends moins bien que quand Ève le lit. Et vraiment, la première page, je me souviens encore, le caoutchouc, je l'ai écouté avant d'enregistrer. Je dis « Ah, mais c'est clair! Je viens de comprendre ce que j'ai écrit! »
Tant mieux!
Je pense qu'il faut écouter justement parce que Ève réussit à donner une troisième dimension aux mots, probablement. Et soudainement, les personnages deviennent vivants et puis je vois les séquences, je vois, oui, comme un film audio.
Comme un film audio. Vous savez, je voudrais remercier une personne qui est Véronique Derry, qui s'occupe de vos relations de presse, Kim. Et je vais vous dire pourquoi je la remercie, parce que généralement maintenant, on nous envoie toujours les livres en PDF. C'est très rare qu'on ait l'objet dans les mains. Et elle m'a tout de suite dit, quand elle a su qu'on allait faire une entrevue ensemble, elle m'a tout de suite envoyé ce livre sur papier. Si bien que je me dis, il y a une chose qui va manquer au livre audio. C'est le fil, mais le fil qu'on voit et sur lequel...
Ouais.
Moi, je peux souffler, là, sur ma couverture. c'est vrai. Et je me disais, mais comment on aurait pu faire ça en audio? Ben, on pouvait tout simplement pas.
On a la voix de...
On a la voix, oui.
De fil.
Oui,
de
je un mince rêve. Filet tout au long en espérant qu'on le remarque.
Kim, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand des gens viennent vous voir, bon, par exemple sur M, quelle est la phrase qui vous rejoint le plus? À quel moment vous vous dites « Oh, je suis tellement contente de ce que cette personne-là vient de me dire sur mon bouquin. J'ai accompli mon but, ma mission, si tant est que ça prenne un but et une mission pour écrire un bouquin. »
Moi, je vous dirais, c'est quand je reçois une émotion d'eux. Et quand elle dit « Ah oui, le livre est bon » et tout ça, ça me touche beaucoup moins, vraiment. Ou, oui, on ouais. reçoit évidemment le compliment, mais quand ils me disent « Ah, ça m'a fait penser à ma mère. »
Ah oui.
Mmh. Ou « vous m'avez accompagnée dans ma peine d'amour. Mmh. » Ou « vous avez accompagné mon insomnie. » Donc, j'ai l'impression que ça donne une utilité au livre.
Oui.
Mm-hmm. Alors que le livre soit bon ou pas, bon, c'est une chose, mais c'est pas très intéressant pour le lecteur, je trouve. Mm-hmm. Il faut vraiment, ben, j'espère, toujours de pas provoquer, mais offrir une émotion. Mm-hmm. Aller chercher, mais qu'il puisse vivre une émotion. Et je crois que c'est le but de l'art en général, mm-hmm. c'est d'aller chercher, justement, de nous permettre de vivre des émotions qu'on ne vit peut-être pas en lavant la vaisselle, par exemple.
Quoique!
Quand le livre, quand l'œuvre prend sa place dans la vie de quelqu'un, moi je trouve ça magnifique. C'est pas, il reste pas en surface, il prend sa place, il rentre à quelque part, puis la personne le laisse entrer aussi. Tu sais, des fois, on peut lire quelque chose puis le rejeter, faire du déni sur ce qu'on a ressenti, mais quand la personne laisse entrer l'œuvre et que l'œuvre prend sa place, ça prend tout son sens.
Il y a une phrase au sujet d'un des couples qui passe. Vous dites dans le bouquin, leur quotidien a été sans histoire, presque sans mémoire. Et je me disais, mon Dieu, est-ce que je fais partie de ces gens-là, moi?
Et ben non, parce que ta voix est immortalisée partout que tu es.
Oh, Kim, quand je pense que la dernière fois qu'on s'était vu, ça avait fini par une séance de photos incroyable, on avait fait les folles. Puis alors là, maudite pandémie. Kim
Donc,
Thuy,
tu ne peux pas être sans mémoire.
Non, c'est ça, exactement. Kim Thuy, merci tellement pour ce livre chargé d'émotions qui m'a bouleversée, je dois le dire. Ève Landry, merci pour cette lecture. Je suis tellement contente de pouvoir provoquer la rencontre. J'aurais été triste que ça ne puisse pas se faire, au moins virtuellement par le téléphone entre vous deux. Merci beaucoup.
Tout le plaisir était pour moi.
Merci, Kim.
Mais vraiment, le match avec Ève a eu lieu grâce à notre ami en commun, Justin Leveau.
Oui.
Qui m'a dit, oui, il faut que tu chutes à aller chercher Ève, tu veux parler à Ève.
j'en dois une à Jocelyn, j'en dois une.
Non, c'est plutôt moi, parce que j'aurais pas osé, en fait, je ne savais pas, puis je savais pas qui serait intéressé.
On va vous couper le sifflet, mes pauvres petites chéries, parce que je vous jure qu'on arrive à la fin de l'émission, je vous embrasse. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors, en seconde partie, Claudia La Rochelle va se joindre à moi, va nous permettre de nous plonger dans l'univers de deux autrices, Lola Lafont et Kim Thuy, qui vient juste de raccrocher. Je me suis demandé comment Claudia La Rochelle avait reçu, elle, la lecture de M de Kim Thuy. Et puis, Lola Lafont chavirait, parce que c'est un livre qui nous fait chavirer. Permettez-moi cette phrase un peu creuse, mais c'est pourtant la réalité. Elle devrait être là, d'ailleurs. La voici, la voilà, la belle Claudia. Bonjour, Claudia.
Oui, bonjour.
Hi.
Oui, c'est ça. Hi, hello.
Oh, hello! Comment ça va? Mais tu sais qu'avec moi, c'est comme toujours un peu du... Voilà.
Ça va sur les dents à cause de, ce, de ces coups de gueule.
Mais oui. Hein.
Je parle de la langue française.
Mais oui, t'as provoqué un séisme.
Oui, en fait, j'ai contribué tant plus. J'ai pu faire ma part parce que les mots, la langue française, ça nous tient à cœur. On a ça en commun, toi et moi, oui.
Oui, toi et moi, mais oui, absolument. Oh non, mais regarde, un Z, ça prend un Z, un toi et moi, je trouve, pour qu'il se soit encore plus fort. Alors, Claudia, je me disais, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence tout de suite par M, parce que je viens juste de raccrocher avec Ève Landry? Et oui, on commence par ça, puis on ira sur Chaviré ensuite. Allez,
ouais.
Alors toi, M.
Ben, moi, depuis Rue en 2009, le parcours de Kim ne cesse de m'impressionner parce qu'il est aussi singulier que sa personnalité. Hein. Oui. Il est franche, il est attachante, il est solaire. Et moi, j'aime ce type de personnalité-là, mais ce qu'elle écrit aussi. Et là, cette fois, M, c'est son 8e livre, et je trouve qu'il est grandiose tant du point de vue de sa forme, qui est vraiment en poupée russe, que de ses mots.
Oui.
Et ce livre-là, il y a un penchant plus sombre, quand même plus sombre que ses précédents, plus lunaire aussi, en racontant donc les destins liés de victimes de la guerre du Vietnam. Et c'est sûr qu'on suit comme un vaste tableau, parce que c'est un vaste tableau de fiction. Je le décrirais en disant que c'est cousu de fils de soie et de barbelés, et que c'est oui, ça baigne dans le sang. Mais il en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de lumière.
Ah, c'est exact. Comme... C'est fou.
Ouais, hein,
Excuse-moi, ouais. Je t'ai interrompu bêtement, mais c'est parce que ce sont tellement les mots qui sont ressortis, autant dans la bouche d'Ève Landry, qui est la voix de ce livre audio, que chez Kim, que chez moi, quoi. La lumière.
Ouais. Ouais. La lumière, mais la vérité aussi, qui se trouve toujours dans les nuances. Alors, j'ai eu un vertige en lisant ça, puis c'est ce que je cherche quand je lis. Alors, j'ai été contente et ravie. Ouais. Donc, on suit ces gens, on les suit dans leur destinée, des gens qui ont vécu chacun de leur côté. Donc, on n'a pas juste le point de vue, puis c'est ça qui est intéressant, on n'a pas juste le point de vue vietnamien, mais on a le point de vue américain aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle est dans les nuances, puis qu'elle est... elle n'est pas totalement dans les contrastes aussi, donc elle n'est pas totalement dans le laid, pas totalement dans le beau, et elle cultive ça. Et je pense que ça prenait Kim Thuy pour nous amener là, puis pour avoir ce flair, ce talent pour mettre le doigt sur des personnages qui, ma foi, porte tout un monde en eux, et ce monde-là, elle le transmet. Oui.
Et qui nous habite bien. Après. Hein? Moi, je suis encore, très, très habitée par Tam, par Naomi, par tous ces gens-là.
Des scènes fortes qui m'ont vraiment fait monter les larmes aux yeux. Donc je pense que il est meilleur que les autres, à mon sens, à moi, à mon avis. Donc si vous aimez Kim Thuy, celui-là, c'est vraiment un incontournable parce que elle revient au cœur de ses propres racines aussi. Elle y allait déjà dans le passé. Et là, elle y va encore plus, je pense, parce que ce sujet-là, il était quand même délicat à aborder parce qu'il ne touche pas justement que sa famille, que ses liens biologiques à elle, c'est qu'il traite, il parle d'un peuple, de plusieurs peuples même, donc qui nous ramène dans le temps. Ouais. Donc elle déborde d'elle-même, elle sort de son propre parcours, de son sillage, puis elle nous amène sur des chemins de travers. Alors moi, c'est ça que j'ai aimé avec Kim Thuy, elle est formidable. Bref.
Moi, je me disais que c'était un livre sur l'humain, sur l'inhumain et sur le surhumain.
Ah ben là, c'est bien dit. Hein?
Non, mais c'était même pas la volonté de bien le dire. C'était juste parce qu'à un moment donné, je me disais, voyons, pourquoi ça me touche autant? Pourquoi ça me dérange pas dans le sens sans le sang, etc.? Ça me dérange pas comme quand tu fais « Oui, on fait ça, mais on fait ça » en disant « Mais mon Dieu, que c'est beau et que c'est bien écrit. C'est de la dentelle. » On va écouter un autre extrait. Je dis un autre parce qu'on a déjà écouté deux extraits dans la première demi-heure. On va écouter, pour toi, si tu le veux bien, un autre extrait et pour nos auditeurs, évidemment, de M, lu par Ève Landry.
Il fallait beaucoup de volonté pour maintenir sur place, au milieu de la brousse, des groupes d'ouvriers agricoles afin qu'ils arrachent des forêts de bambous aux rhizomes densément intriqués dans le sol, puis y enracinent des évéas avant de recueillir leur sève d'une aube à l'autre. Chaque goutte de latex obtenue valait la goutte de sang ou de sueur versée. Les évéas pouvaient se laisser saigner pendant 25-30 ans quand un homme sur quatre, parmi les 80 000 coulis envoyés dans les plantations, tombait bien avant. Ces milliers de morts cherchent encore dans le bruissement des feuilles, dans le murmure des branches et dans le souffle du vent, pourquoi de leur vivant ils ont remplacé leur forêt tropicale par des arbres venus de l'Amazonie, pourquoi ils les ont mutilés, pourquoi ils ont porté des étrangers sur la tête, alors que ces hommes grands, aux joues si pâles et à la peau si poilue, ne ressemblaient en rien à leurs aînés au corps osseux et aux cheveux noirs ébène. Maï avait la peau cuivrée des coulis et Alexandre la posture du propriétaire roi en son domaine. Alexandre a rencontré Mai dans la colère. Mai a rencontré Alexandre dans la haine.
Oh, l'écriture, hein?
Oui, oui, oui.
Oh, c'est fait. Fantastique, vraiment.
Mm. Non, mais tout en simplicité aussi, alors, ah. C'est ce qu'on aime.
Simple,
elle
mais...
Pas juste pour, elle n'écrit pas juste pour briller non, ou trouver non. Les tournures de phrases non. Qui vont vraiment fracasser les vitrines.
Non, pas du tout, mais quelle puissance. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Mme Lola Lafont?
Ben oui, dans le sens qu'on est dans un sujet tout aussi délicat, tout aussi dur. Il y a peut-être un peu moins de lumière quand même, quoique l'effet qu'elle fait est lumineux, puis est-ce que ça peut peut-être contribuer à changer sans qu'elle le veuille vraiment dans la société. Je pense que c'est une pierre de plus qu'on vient d'ajouter à ce combat que mènent les femmes et la société en général depuis le mouvement #MeToo, #moi aussi, qui a pas été pour elle un déclencheur parce qu'elle avait déjà commencé à travailler sur ce sujet-là, notamment dans à la publication de son premier roman en 2003, intitulé « Une fièvre impossible à négocier ». Donc, Lola Lafont, c'est une Française. En fait, elle est née dans le nord de la France, d'un père français, d'une mère biélorusse. Elle a grandi du côté de la Bulgarie. Elle a voyagé, est allée vivre aux États-Unis. Elle est revenue en France. En tout cas, elle a fait tout un parcours. Et donc, il y a eu... et là, il y a ce nouveau roman, Chaviré, qui est paru le précédent c'était Merci Mary Patty, donc en 2017 chez Actes Sud, et là on attendait et il est enfin venu ce livre-là dont on avait de bons échos déjà parce qu'il est paru en France avant qu'on le reçoive ici au Québec. Il a été en nomination en liste pour de grands prix dont le Goncourt, notamment le Goncourt, et en ce moment il est encore en nomination et pour plusieurs autres prix, mais tous les prix qui concernent des lycéens, des collégiens, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un livre qui fait réagir, je dirais, toute une génération aussi. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Cléo, qui est une fille de 13 ans. On est en 1984. Donc, une jeune fille d'un milieu assez modeste quand même à Paris, ou d'une classe moyenne plutôt basse, et elle rêve de faire carrière dans le monde de la danse un jour. Il y a une femme élégante qui vient la voir et qui lui fait miroiter une bourse d'une mystérieuse fondation qui s'appelle la Fondation Galatée. Et cette bourse-là lui permettrait d'accéder à une formation d'exception, puis d'avoir accès à ce dont ont accès les jeunes femmes des classes supérieures. Alors, elle rencontre même la maman de Cléo. Alors, tout le monde est sous le charme, tout le monde obtempère, tout le monde y va d'un go, sans se douter qu'il y a un piège de nature sexuelle qui va se refermer sur Cléo. Et Cléo sera donc prise dans une espèce de stratagème et elle deviendra elle-même une certaine... En plus d'être une proie, elle deviendra elle-même un bourreau en devenant rabatteuse. Donc, elle va aller chercher, elle aussi, d'autres victimes. Par la suite, en 2019, les policiers tombent sur des fichiers de photos qui les relient à cette sombre histoire. Donc, ils vont soulever cette pierre-là et voir tous les petits verres qui grouillent en dessous. Donc, c'est là, comme si on ouvrait une boîte de Pandore, finalement. Oui. Les secrets vont ressortir et on va découvrir donc toute la pensée, la destinée. On suit finalement un destin, celui de Cléo. C'est très, 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 très puissant parce que c'est bon, d'abord c'est une histoire qui vient nous happer, qui vient nous chercher, qui vient nous gagner. Et par la suite, il y a toujours l'écriture, le souffle, la forme aussi qu'emprunte Lola Lafont. Moi, j'ai été vraiment chavirée.
Ah, absolument, hein, c'est ça. Et là, moi, je vous propose, en plus d'être chavirée, peut-être aussi par la lecture qu'en fait, je suis en train d'essayer de retrouver son nom sur ma recherche. J'avais ça quelque part et puis voilà, bravo Clotilde, mais je suis sûre que mon petit camarade va me faire une petite recherche vite fait en studio. En attendant, on va en entendre un extrait de ce livre. J'ai tellement eu le choix entre plusieurs extraits et je ne sais pas celui-ci, c'est parce qu'à un moment donné, donc elle finit. Oui, on peut parler de finitude dans un truc genre Les Folies Bergères ou Le Casino de Paris, ou en tout cas, je sais pas exactement. Mais, et là, elle décrit Parce qu'évidemment, nous, on ne voit que la paillette, que le, etc., que les... Mais ce qu'elles vivent, les filles, ce qu'elles subissent, c'est bien au-delà de la paillette et ça n'a rien à voir avec le clinquant et le scintillant. Je suis une
Les filles faisaient semblant d'être nues. Elles surjouaient leur joie sur scène 90 minutes durant. Ça, c'est Paris. Elles venaient d'Ukraine, d'Espagne ou de Clermont-Ferrand. La sueur ternissait le satin de leur bustier. Les traces jaunâtres persistaient en dépit des nettoyages. Les strings étaient pulvérisés de spray antibactérien. Les résilles s'incrustaient dans le tendre des cuisses. Elles laissaient des ratures quadrillées. De loin, on n'en percevait rien. Un éclairagiste avait appris à Cléo que la plus modeste des pannes de velours chatoyait sous les projecteurs. À l'inverse, ceci affadissait les reflets des soieries authentiques. La lumière escamotait les accros, les faux plis, les traces de cellulite, les cicatrices. Elle atténuait les rides et le roux criard d'une coloration bon marché. Les bustiers en tissu à paillettes laissait des plaques vermillons sur les flancs de Cléo, des estafilades bordeaux sous ses aisselles, des débris de plastique que la sueur aiguisait. De loin, on n'en percevait rien.
Non, c'est ça. On n'est plus dans la paillette, là.
Non, c'est ça aussi la réalité de, ouais, de ces filles dans les revues musicales comme celle-là. Ouais. Lola Lafont, je veux dire, elle a beau être jeune, là, je veux dire, elle est née en 74, là, quand même, elle reste une femme qui est jeune, mais qui
elle
a vécu beaucoup de choses. C'est vrai, elle a vécu tellement mille vies en une seule femme, parce qu'elle me racontait qu'elle avait dansé, elle aussi. Donc, elle écrit sur des choses qui appartiennent à son vécu aussi. Elle sait de quoi il s'agit quand elle écrit sur ses histoires.
C'est évident, là, d'ailleurs, parce que quand elle écrit l'ambiance, à la, même en danse, à la barre, oui, c'est clair que si tu l'as pas vécu...
Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça qui est formidable, c'est cette, cette femme vraiment de grande intelligence. D'ailleurs, je ne savais pas ça, mais son premier roman, Les fièvres impossibles à négocier, publié en 2003, j'apprenais que c'était Frédéric McBaby qui avait été son éditeur. C'est lui qui l'avait... On a déjà parlé de McBaby, cette émission-ci, ensemble. Donc, j'apprenais ça, j'ai lu ça dans ma recherche. Mais oui, ça m'a fait un peu sourire. Mais tu sais, il y a d'autres titres là qui sont formidables. La petite communiste qui ne souriait jamais. Je parlais de Mary Patty, aussi sur Patricia Hearst, là, donc qui a été enlevée il y a quelques années. Oui. La petite communiste, ben ça c'est sur notre gymnaste,
Nadia Comăneci.
Roumaine,
oui. Ah, mais je suis quand même. Alors, chère Claudia, ben merci beaucoup. Ouais. Je voudrais préciser que la voix toute évangélique qu'on entendait lire chavirer de Lola Lafont, c'est la voix de Marine Berthiaud. J'aime bien rendre hommage à ceux qui font ce merveilleux travail de lecteur à haute voix. Merci beaucoup, Claudia.
Ah, merci Clotilde.
Bye.
C'est un plaisir.
See you
Bye.
Soon.
Bye.
Très bientôt, je t'embrasse. Salut. Bye. L'y remplacer Henri Salvador, chambre avec vue. Bon, quelques nouveautés. Le Crépuscule et l'Aube, ça a été produit chez Audiolib. Ça, c'est avant Les Piliers de la Terre. C'est donc, bien sûr, de l'auteur Ken Follett. Et c'est lu par le narrateur Steve Drisson, ou Steve Drisson, peut-être que disent les Français. Eh bien, il s'est amusé pendant 29 heures à lire ce bouquin-là. Donc, gros livre audio. Nous sommes 30 ans après la publication des Piliers de la Terre, mes amis, qui s'est quand même vendu, rappelons-le, à plus de 27 millions d'exemplaires dans le monde. Ça va, vous, l'héritage? Ça va bien, merci. Le Crépuscule et l'Aube, ça nous transporte dans une époque historiquement riche dans laquelle se confrontent ambition, réalité, vie et mort, amour et haine. Et ça nous conduit aux portes des piliers de la Terre avec notamment ce personnage, Edgar.
Edgar sortit et referma précautionneusement la porte derrière lui. La lune était couchée, mais le ciel était dégagé et les étoiles éclairaient la plage. La maison était séparée de la laisse de haute mer par un chantier naval. Pa était charpentier de marine et ses trois fils travaillaient avec lui. Comme Pa était bon artisan mais piètre homme d'affaires, c'était Ma qui prenait toutes les décisions financières. Elle se chargeait notamment des calculs délicats, nécessaires pour établir le prix d'un ouvrage aussi complexe qu'un bateau ou un navire. Quand un client cherchait à marchander, son père était toujours prêt à céder, mais sa mère l'obligeait à tenir bon. Edgar jeta un regard vers le chantier tout en lassant ses souliers et en bouclant sa ceinture. Il n'y avait qu'une embarcation en construction, une barque qui permettrait de remonter le fleuve à la rame. Le tout était gardé par un chien à l'attache, Grindel, un mastif noir au museau gris, trop âgé désormais pour faire grand mal à d'éventuels voleurs, mais encore capable de donner l'alerte en aboyant. Grindel demeura silencieux, observant Edgar avec indifférence, la tête posée sur ses pattes avant. Edgar s'accroupit et lui caressa la tête. « Au revoir, mon vieux chien. »
Et puis, une autre nouveauté, cette fois-ci, elle vous est proposée, ben, pas moi-même, mais c'est de chez Gallimard, la collection Écoutez-Lire, de Fabrice Caro, ça s'appelle Broadway, c'est lu par Benjamin Laverne. Une femme, deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout, et la perspective du paddle à Biarritz avec un couple d'amis l'été prochain. Bref, Axel a tout pour être heureux, mais il fait le constat à 46 ans que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Il s'était rêvé, vous savez, scintillant, emporté dans une comédie musicale à la Broadway, et il se retrouve dans un spectacle de fin d'année complètement foireux. Alors, s'il était temps pour Axel de tout quitter, de partir dès ce soir à Buenos Aires, au lieu de rentrer du travail, et malgré l'apéro de chez les voisins, ça vous dit quelque chose, Fabrice Caro? Oui, c'est celui à qui l'on doit le livre Le Discours, sorti il y a quelques années. Mais là, je vous parle de Broadway, et en voici un extrait lu par Benjamin Laverne.
Ce devait être la toute première lettre m'étant adressée personnellement. Et j'avais cru alors que le courrier serait toujours synonyme de cœur qui bat, de ventre qui vibre, de fragments d'extase et de ciel sans fin. 30 ans plus tard, ellipse, je tiens dans ma main une enveloppe plastifiée bleue au bas de laquelle est inscrit « Programme national de dépistage du cancer colorectal ». Que s'est-il passé entre ces deux instants? À quel moment le bleu du ciel de la carte postale de Juan Lépin s'est-il délavé pour atteindre ce bleu grisâtre? Les Inuits possèdent un nombre incroyable de mots pour désigner la neige, dont chacun exprime une nuance bien précise. Ils ont aussi le même mot pour désigner berceau et tombeau, dans le genre ellipse temporelle. Dans notre culture, ce sont les nuances de bleu qui sont incroyablement riches, avec un spectre qui s'étend du bleu Juan Lépin au bleu colorectal. Je cherche une écharpe dans les tons bleu colorectal, vous auriez ça? Je regarde cette enveloppe, sans même une trace de baiser rouge à lèvres pour en atténuer la violence, et je me dis que tout courrier administratif devrait avoir la douceur d'une lettre de Sandrine Cazès. Nous vous invitons à régulariser dans les meilleurs délais votre situation, à défaut...
Eh bien, à défaut, va falloir lire le bouquin. Bel humour, j'adore cet humour-là, bravo. Alors, Broadway, lu par, je vais le retrouver ici, Benjamin Laverne, c'est un livre de Fabrice Carreau. Et enfin, est-ce que j'ai le temps pour un petit dernier, Jean-Sébastien ? Ok, on y va. Avec le stress pour les nuls, vous savez, la collection pour les nuls, je vous en avais déjà parlé une fois à l'émission, quand ça a commencé à être enregistré chez Lizzie. Eh bien, il y en a de plus en plus dans la collection, et notamment le stress pour les nuls. Et je me suis dit, tiens... Pandémie oblige, les fêtes qui arrivent. Je veux pas en rire parce que je sais que c'est extrêmement difficile, notamment pour les gens seuls. Et vous êtes nombreux. J'aimerais tellement que les gens seuls découvrent le livre audio. Vous allez penser que je prêche pour ma paroisse. Non, je prêche pour une autre façon de lire qui peut faire passer des heures absolument magnifiques à des gens qui sont tout seuls et notamment pendant les fêtes. Alors, c'est un cadeau à faire, offrir un lien. C'est pas difficile. Et entre autres, évidemment, pensez peut-être à notre catalogue, livreaudio.vusezvoix.com. Voilà, je l'ai bien eu. Alors là, le stress pour les nuls, eh bien, c'est un ouvrage indispensable apparemment pour vivre mieux en apprenant à bien gérer le stress du travail ou des amours ratés ou d'une pandémie. Pourquoi pas ? Un extrait.
Gérer son stress pour les nuls a été écrit pour vous fournir ces outils. Ce livre est votre guide. Il va vous aider à orienter vos choix dans l'ensemble, parfois confus, de solutions pour gérer le stress, vous permettre d'acquérir les compétences et les capacités dont vous avez besoin pour maîtriser et minimiser le stress dans votre vie. Ce livre audio vous aide à comprendre d'où vient votre stress, comment il vous affecte et surtout, ce que vous pouvez faire à son sujet. Il vous montre comment détendre votre corps, calmer votre esprit et vous débarrasser de la tension qui vient de l'excès de stress. Il vous indique comment maîtriser votre colère, comment vous faire moins de soucis et vous créer un mode de vie résistant au stress. Je me suis efforcée de faire en sorte que votre programme de gestion du stress n'accroisse pas votre stress. J'ai tenté d'être pratique et réaliste en reconnaissant que vous ne pourriez peut-être pas méditer pendant 20 minutes deux fois par jour tout en conservant votre emploi. Eh bien, que je sois convaincue que d'avoir un chauffeur, une merveilleuse maison à la campagne et du service à domicile puisse abaisser votre niveau de stress, je me rends compte également que ce n'est peut-être pas une solution qui vous est offerte. À moi non plus, d'ailleurs.
Nous voilà, le stress pour les nuls de la collection que vous connaissez peut-être bien sur papier et qui, comme je vous le disais, est enregistré, du moins en partie, mais le catalogue va certainement s'élargir chez Lizzie. Ah, je suis contente, pour une fois, j'ai du temps pour vous nommer non seulement mes invités, mais les livres audio dont il a été question aujourd'hui. Alors, en première partie, j'ai accueilli Kim Thuy, auteur ou autrice. Tiens, je ne lui ai pas demandé à elle ce qu'elle préférait de ce livre M.E.M. qui est vraiment à mettre entre toutes les oreilles, lu par l'exceptionnelle Ève Landry, qui a également accepté mon invitation. Ça a été une belle rencontre que vous pourrez réentendre si vous l'avez raté, parce que vous savez que sur le site de Canal M, vous pouvez absolument écouter, réécouter toutes les émissions que vous désirez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre à midi pile le jeudi si vous ratez ça. Pas grave, sinon en balado, si vous allez sur n'importe quel site de recherche et vous écrivez des livres plein les oreilles, pouf, vous tombez dessus. Fastoche, facile. Sinon, ben, CKVL ou encore Canal M, bien évidemment. Aussi à l'émission, il a été question, donc à l'instant du stress pour les nuls, lu par Gila Clara Kessous. Il a été question de Broadway. Il a été question de ce livre de Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube, qui précède en fait l'immense succès Les Piliers de la Terre. Ça, c'est la recette Star Wars façon Ken Follett. Et il a été question avec Claudia Larochelle, d'abord de M, le livre de Kim Thuy qu'elle a elle aussi adoré, et de Chavirer, de Lola Lafont. Bon, ça en fait des idées de cadeaux, ça, quand même. Hein, sur notre catalogue livreaudio.vusezvoix.com, mais encore aussi sur toutes les plateformes de livres audio. Régalez-vous les oreilles, il y a des voix magnifiques qui vous apportent toutes ces histoires. Ce serait dommage de vous en priver. C'était Clotilde Seille en compagnie en régie de Jean-Sébastien Laliberté pour vous présenter des livres plein les oreilles. Je vous souhaite une très très belle semaine, plein de belles histoires à écouter, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.